de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, on se rencontre avec moi, Tiwi, et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le secrétaire d'État américain se rendra en Israël et aux Émirats Arabes Unis. Rapporté le cas le plus élevé, COVID-19 en Inde dépasse les 3 millions. COVID-19 cible les personnes âgées de 40 ans et moins en France. Une universitaire apprécie que le projet de loi sur la création d'emplois puisse soutenir la performance des micro-petites-moyennes entreprises. Le tourisme à Bali commence à se redresser. Il n'y a pas de remaniement. Le cabinet Indonésie Maju ou Indonésie Avancée se concentre sur les travaux, a déclaré le porte-parole présidentiel. Java de l'Ouest a renforcé la supervision de la mise en œuvre des protocoles de santé dans les sites touristiques. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, se rendra en Israël et aux Émirats Arabes Unis. Il discutera de l'accord sur la normalisation des relations diplomatiques conclues par les deux pays. Selon deux sources, la visite de Pompeo en Israël est prévue pour lundi. Mardi, il partira pour les Émirats Arabes Unis. Selon eux, en plus de discuter de la normalisation des relations diplomatiques, Pompeo discutera également des défis sécuritaires posés par l'Iran et la Chine dans la région. L'Israël et les Émirats Arabes Unis sont parvenus à un accord sur la normalisation des relations diplomatiques le 13 août. Cela a été réalisé avec l'aide des États-Unis. C'était le premier accord de paix d'Israël avec un pays arabe en 26 ans. Dans le cadre de l'accord de normalisation avec les Émirats Arabes Unis, Israël aurait accepté de suspendre l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie. Cela a été exprimé par le prince héritier des Émirats Arabes Unis, le Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le gouvernement indien rapporte la plus forte augmentation des cas de COVID-19 depuis son apparition en mars dernier. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu au moins 70 068 nouveaux cas quotidiens en Inde. Ce nombre après le nombre de cas de virus corona en Inde en dépassait les 3 millions. Sur la base du rapport Worldometer, à partir de ce nombre quotidien, l'Inde a actuellement confirmé 3 043 436 cas de COVID-19. En plus des cas quotidiens les plus élevés, l'Inde a également signalé 918 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès de l'épidémie à 56 846. Cependant, dans le même temps, l'Inde a également signalé environ 59 101 patients guéris. Ce taux de récupération fait que la récupération totale de COVID-19 en Inde atteint actuellement 2 279 900 personnes. Citant l'Indien Express, dimanche dernier, le ministère indien de la Santé a déclaré que le taux de récupération avait dépassé 74,69%. Contrairement au taux de létalité actuellement évalué à 1,87%. Le coronavirus circule 4 fois plus chez les personnes de moins de 40 ans en France que chez les personnes âgées de 65 ans. Cependant, le ministre français de la Santé a également averti que la transmission était en augmentation chez les personnes âgées et les plus vulnérables. C'est ce qu'a affirmé le ministre français de la Santé, Olivier Véran, dimanche dernier. Il a ajouté que le nombre plus élevé de cas détectés n'était pas seulement dû à davantage de tests. Comme président Emmanuel Macron, Olivier Véran a exclu la nécessité d'une quarantaine totale pour lutter contre la propagation de cette maladie. Mais il a déclaré que des mesures locales pourraient être prises au fur et à mesure que des cas se développaient en France et ailleurs. La France a signalé une augmentation de 3602 nouvelles infections à la COVID-19 samedi au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation moins importante que la veille. Mais plus tôt cette semaine, le nombre de cas quotidiens a atteint un sommet après le confinement. Ima Mayasari, chargée de cours à la Faculté de sciences administratives de l'Université d'Indonésie, a estimé que le projet de loi sur la création d'emplois peut être pratique et avoir un impact positif sur les micro, petites et moyennes entreprises. Ima, dans un communiqué à Jakarta dimanche dernier, a ajouté un autre avantage de la loi Omnibus, non seulement la facilité de demande de licence commerciale, mais aussi l'absence de frais pour les acteurs commerciaux s'ils souhaitent passer à une SA. Elle s'assure que ces diverses commodités peuvent déclencher un climat des affaires plus sain et la croissance de nouvelles micro, petites et moyennes entreprises capables d'absorber la manque de fraude. Selon IMA, le développement des micro, petites et moyennes entreprises doit se faire car ce secteur est le principal moteur de l'économie nationale comme au Mexique. Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, estime que le secteur du tourisme dans la région a commencé à montrer des signes de reprise depuis son ouverture aux touristes nationaux à partir du 31 juillet 2020. Ceci est indiqué par le nombre croissant de vols vers l'île de Bali chaque jour via l'aéroport international Igusti Ngurah Rai, l'une des entrées de Bali. Koster a déclaré cela dans un communiqué de presse reçu dimanche par l'agence de presse Antara à Denpasar. Koster l'a exprimé lors de son allocution au lancement de la danse de Kecak à la nouvelle normalité et le lancement du programme de numérisation du système de paiement basé sur QRI à Uluwatu, Badung. Il a déclaré qu'avant le 31 juillet 2020, les avions Garuda Indonesia à destination de Bali n'effectuaient que 2 vols par jour. Le nombre de passagers transportés n'est que d'environ 1000 personnes par jour. Après l'ouverture le 31 juillet, les vols Garuda Indonesia vers Bali atteignent 5 fois par jour. Le nombre de passagers a également augmenté de plus de 2000 personnes par jour. Le porte-parole du président Joko Widodo, Fadjrul Rahman, a souligné qu'il n'y avait pas de plan présidentiel de remanier le cabinet et que les rangs du cabinet Indonésia Maju ou l'Indonésie avancée étaient actuellement concentrés sur le travail. C'est ce qu'a affirmé Fadjrul Rahman dans un communiqué de presse rapporté par Antara à Jakarta dimanche dernier. Il a déclaré que ce qui est nécessité par l'Indonésie maintenant, c'était de travailler rapidement, de travailler dur et de travailler de manière innovante. Il a déclaré que le président Joko Widodo a toujours mis l'accent sur la rapidité et l'innovation du travail gouvernemental de centre vers les régions ainsi que sur la collaboration de toutes les composantes de la nation afin de sortir de la crise sanitaire et de la crise économique. Conformément à la direction du président Joko Widodo, selon Fadirol, les rangs du cabinet ont été invités à rester concentrés sur le travail pour tirer parti de la dynamique de crise pour accélérer les progrès dans toutes les activités de leurs ministères respectifs. L'Office du tourisme et de la culture de Jaffa de l'Ouest a renforcé la supervision de la mise en œuvre des protocoles de santé pour empêcher la transmission de COVID-19 dans les attractions touristiques, car pendant les longues vacances, le nombre de touristes qui voyagent a tendance à augmenter. Le chef de l'Office du tourisme et de la culture de Jaffa de l'Ouest, Dedi Taufik, a déclaré dimanche dernier que les activités touristiques avaient commencé à s'étirer depuis que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre des politiques d'adaptation aux nouvelles habitudes. Dedi a ajouté, jusqu'à présent, le taux d'occupation des hôtels dans l'ouest de Jaffa est de 40 à 50% en moyenne. Ce qu'il faut souligner, c'est que tous les hôtels et destinations touristiques doivent respecter les règles du protocole sanitaire et réduire la capacité totale. Il a déclaré que le gouvernement provincial coordonné avec les gouvernements locaux pour effectuer une surveillance afin de s'assurer que les hommes d'affaires de l'industrie du tourisme et les touristes obéissent les protocoles de santé. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Les efforts d'Indonésie pour trouver le vaccin de COVID-19 ». Depuis plus d'un an et demi, le monde est hanté par le virus COVID-19. Diverses tentatives ont été faites pour empêcher la propagation du virus, mais n'ont pas encore donné de résultats. En fait, les personnes infectées par le virus COVID-19 augmentent de jour en jour. C'est en partie parce que le bon vaccin n'a pas été trouvé. L'Indonésie est l'un des nombreux pays au monde à avoir du mal à trouver et à produire son propre vaccin de COVID-19. Bien qu'il ne soit pas encore terminé, les efforts du gouvernement indonésien pour produire un vaccin contre le COVID-19 semblent proches de réalité. L'une d'elles consiste à coopérer avec Sinovac, une société pharmaceutique chinoise. L'Indonésie, via PT Bio Farma, prévoit de distribuer 50 millions de doses de matières premières sous forme de vrac ou de concentré pour le vaccin COVID-19 Ready to Fill ou RTF de Sinovac de novembre 2020 à mars 2021. Cette certitude était connue après la signature de l'accord préliminaire d'achat et de fourniture de production en vrac de vaccin COVID-19 entre le président-directeur de Bio Farma, Honesty Bashir, et le directeur général de Sinovac, Tao Xiang, jeudi à Hainan, en Chine. Après son entrée en Indonésie, une série de tests sera effectuée à Bio Farma et en processus d'enregistrement à l'Agence de contrôle des aliments et des drogues jusqu'à ce qu'ils soient enfin prêts pour la production. Une fois le troisième essai clinique terminé en janvier 2020, la production sera commencée officiellement. Outre Sinovac, le gouvernement cible également un vaccin d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. L'Indonésie a obtenu l'engagement de G42, une société d'intelligence artificielle d'Abu Dhabi, qui développe actuellement un vaccin de COVID-19 à fournir 10 millions de doses de vaccins de COVID-19 cette année. Les efforts du gouvernement pour lutter contre le virus COVID-19 en trouvant et en produisant ses propres vaccins doivent être appréciés. Plus tôt le vaccin sera produit et distribué au public, mieux ce sera pour réduire le nombre de cas de COVID-19 qui dimanche atteignait 154 000. Le gouvernement et le peuple indonésien espèrent que le vaccin de COVID-19 pourra être produit et distribué immédiatement. Espérons que la tempête de COVID-19 passera bientôt afin que le peuple du monde, en particulier l'Indonésie, puissent vivre une vie normale et reconstruire leur vie sociale et économique qui a été gravement endommagée par la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 24 août 1941. Vous êtes avec moi, Audrey. Cher ami, l'événement du 24 août 1941, Adolf Hitler a officiellement mis fin à l'action de T4, le programme nazi pour l'assassinat systématique des personnes handicapées. L'action T4 était un programme nazi qui a officiellement fonctionné entre 1939 et 1941, période pendant laquelle Adolf Hitler avait systématiquement tué 200 000 à 250 000 personnes atteintes de troubles génétiques. Après 1941, les meurtres sont devenus informels et moins systématiques. Le programme T4 a été développé sur la base de la politique nazie sur la santé raciale, une conviction que le peuple allemand doit être nettoyé des éléments raciaux malsains, y compris les personnes handicapées. Ce programme est devenu le précurseur du programme de Holocauste, extermination de masse, contre les Juifs sur le continent européen. Chers amis, on continue avec l'événement du 24 août 1962. C'est Televisi Republik Indonesia TVRI diffuse officiellement. Chers amis, Televisi Republik Indonesia ou bien TVRI est la première chaîne de télévision en Indonésie qui diffuse officiellement le 24 août 1962. Sa première émission était une émission d'essai diffusant la 17e cérémonie de commémoration du jour de l'indépendance de la République d'Indonésie depuis le palais d'État de Jakarta le 17 août 1962. L'émission est toujours en noir et blanc. Puis, le 24 août 1962, TVRI a diffusé officiellement avec une retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture des Jeux Asiatiques 4 depuis le stade principal Gelora Bung Karno. Le 20 octobre 1963, le décret présidentiel numéro 215/1963 concernant la formation de la Fondation TFRI avec la direction générale du président de la République d'Indonésie. En Indonésie, enfin, chaque 24 août est célébré comme la Journée nationale de la télévision. Chers amis, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 24 août 2006. L'Union astronomique internationale a décidé de changer le statut de Pluton, qui était auparavant une planète, à une planète naine. Chers amis, depuis la découverte de Pluton en 1930 par Clyde William Tombaugh, les astronomes ont classé Pluton comme une planète du système solaire. Lors d'une conférence tenue le 24 août 2006 en Tchécoslovaquie, des astronomes membres de l'Union astronomique internationale UAI ont décidé que Pluton ne faisait pas partie de la catégorie planète. Selon les astronomes, Pluton ne peut pas être classé comme une planète en raison de sa petite taille orbitale, qui est légèrement inférieure à celle de Neptune. La taille de la planète Pluton est beaucoup plus petite que les 8 autres planètes du système solaire. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, la suite, voici mon Indonésie.
Selanjutnya, bonsoir, voici mon Indonésie yang pour le titre. Indonésie peut presser le déficit commercial avec la Chine jusqu'à 46,08%. L'Indonésie peut presser le déficit commercial avec la Chine jusqu'à 46,08% parce que le taux d'exportation augmente et la valeur des importations diminue au premier semestre 2020. La ministre des Affaires étrangères, Kota Marsudi, a déclaré jeudi Levant outre que la valeur des exportations indonésiennes vers la Chine avait atteint 13,77 milliards de dollars américains au premier semestre 2020. Lorsque d'une conférence de presse virtuelle après avoir assisté à une réunion bilatérale avec le gouvernement chinois à Beijing, à Hainan en Chine, Retno Marsudi a déclaré que l'augmentation des exportations était accompagnée d'une diminution des importations de la Chine vers l'Indonésie de 11,86%. Le chiffre de déficit de l'Indonésie peut être réduit de 46,08%. Au cours de la réunion, Retno Marsudi a proposé la formation d'un groupe de travail conjoint pour le commerce avec la Chine pour faciliter diverses barrières commerciales et l'ouverture du marché chinois aux produits indonésiens. Jusqu'à présent, la Chine occupe toujours la troisième place pour la plus grande valeur d'investissement en Indonésie. Singapour et Hong Kong se classent au premier et au deuxième rang des principaux investisseurs en Indonésie. À cette occasion, Mme Retno a également révélé que les investissements chinois en Indonésie avaient augmenté au premier semestre 2020. La délégation indonésienne à la réunion bilatérale de Beijing jeudi était conduite par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre des Entreprises publiques, Erick Thohir, tandis que la délégation chinoise était conduite par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Retno Marsudi expliquait que la réunion bilatérale a discuté de trois choses. Premièrement, l'engagement des deux pays a continué de renforcer la coopération bilatérale fondée sur le principe de respect mutuel et du bénéfice mutuel. Deuxièmement, maintenir la stabilité et la sécurité régionale. Troisièmement, accroître la coopération dans le domaine des vaccins, en particulier la COVID-19. Outre la participation à la réunion bilatérale, la ministre Retno et le ministre Erick Thohir ont également assisté à la signature de l'accord initial sur la disponibilité de l'approvisionnement en vaccins jusqu'à 40 millions de doses entre PT Bio Farma Persero de l'Indonésie et une société chinoise Sinovac Biotech Ltd en ville de Sanya. De plus, les deux sociétés ont signé un accord pour donner la priorité à Bio Farma pour la fourniture de vaccins en vrac jusqu'à la fin 2021. Serge Ritard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah? Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Bye.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à visiter le lac de Mas Harun Mustaqi à Bengkulu. Alors, restez avec nous sur la voie d'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones croûtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voice.id. Le lac de Mas Harun Mustaqi est l'un des lacs Arjang Lebong. Le nom du lac est tiré du nom du gouverneur du sud de Sumatra lorsque la résidence de Rajang Lebong est incluse dans la province du sud de Sumatra. La superficie du lac Mas Harun Mustaqi est environ 36 hectares. Les collines de la région environnante sont plantées par des légumes frais. Au milieu du lac est unique parce qu'il y a une petite île qui forme une lettre C. Les habitants locaux ont déclaré que cette lettre symbolise les initiales de Churu. À l'est du lac, il y a des arbres luxuriants qui sont généralement utilisés par les visiteurs pour se reposer. Au lac de Mas Harun Mustaqi, les visiteurs peuvent faire diverses activités comme entourer autour du lac en utilisant un bateau à moteur, faire de l'aventure comme des sorties et profiter de la beauté de la nature du lac. Le lac devient la maison pour le poisson d'eau douce qui peut être pêché par les visiteurs. Donc, si vous aimez la pêche, n'oubliez pas d'apporter votre propre équipement de pêche. Le lac a également été complété par des installations telles que la salle de repos, la mosquée, le parking, le terrain de jeu, le renard volant, la piscine de pêche, le café, le hall et le bateau qui peuvent être loués. Chers auditeurs, si vous voulez rester la nuit et profiter de la sensation de la beauté du lac, il y a des villas de différents types. Le lac de Mas Harun Mustaqi est situé dans le sous-district de Selupu Rejang, la résidence de Rejang Lebong, à environ 17 km du centre de la ville de Churu. Tous les types de véhicules peuvent accéder à cette zone d'objets touristiques. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le lac de Mas Harun Mustaqi à Bengkulu ». Demain, nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Kuhampiri engkau meski kau jauh, sendiriku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Kuhampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisi kepadamu, oh intuisi. Kepadamu, oh tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua, kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh kau. Tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu, oh, kau. Tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit du vocabulaire indonésien et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est... Boleh pinjam catatanmu? Boleh pinjam catatanmu? Ou en français, puis-je prêter ton cahier? Bonne étude! Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Boleh pinjam catatanmu? Je répète, boleh pinjam catatanmu? Ou en français, puis-je prêter ton cahier? Dans la classe, Kevin veut prêter le cahier de son ami quand il était absent à cause de maladie.
Siti, boleh aku pinjam buku catatanmu?
Tentu.
Terima kasih.
Après avoir écouté la conversation, Je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Boleh pinjam catatanmu? Je répète, boleh pinjam catatanmu? Ou en français, puis-je prêter ton cahier? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Boleh aku pinjam buku catatanmu? Boleh aku pinjam buku catatanmu? Qui signifie puis-je prêter ton cahier? Tentu. Tentu. Qui signifie bien sûr. Terima kasih. Terima kasih. Qui signifie merci. Bolehkah aku meminjam buku catatanmu? Bolehkah aku meminjam buku catatanmu? Qui signifie puis-je prêter ton cahier? Est la phrase pour demander la permission. Comme on l'a appris à la séance précédente, d'habitude, les Indonésiens demandent la permission en disant bolehkah? Bolehkah? Qui signifie puis-je? La phrase bolehkah aku pinjam buku catatanmu? Bolehkah aku pinjam buku catatanmu? Qui signifie puis-je prêter ton cahier? On l'utilise pour la situation informelle. Pour la situation formelle, vous pouvez dire bolehkah saya meminjam buku Anda? Bolehkah saya meminjam buku Anda? Qui signifie pourrais-je prêter votre cahier? Ou bien, apakah saya boleh meminjam buku Anda? Apakah saya boleh meminjam buku Anda? Qui signifie est-ce que je peux prêter votre cahier? Ou est-ce que je peux prêter votre livre? Pour y répondre, vous pouvez dire tentu. Tentu, qui signifie oui, bien sûr. C'est-à-dire, vous lui permettez de prêter votre cahier ou votre livre. Vous pouvez dire boleh. Boleh, qui signifie oui, s'il te plaît. Ou bien boleh saja. Boleh saja, qui signifie oui, tu peux le prêter. Ou bien tentu saja boleh. Tentu saja boleh, qui signifie oui, bien sûr, tu peux le prêter. Mais si vous ne le permettez pas, vous pouvez dire tidak boleh. Tidak boleh, qui signifie ne devrait pas. Pour le rendre plus poli, on peut ajouter avec un mot maaf. Maaf. Ou en français, pardon. Par exemple, maaf, tidak boleh. Maaf, tidak boleh. Qui signifie, pardon, je ne vous permets pas. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Siti, boleh aku pinjam buku catatanmu?
Tentu.
Terima kasih.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir. chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Et cette fois, vous allez écouter une chanson keroncong intitulée Air Mata Ibu. Cher ami, cette chanson décrit la lutte et le mérite d'une mère qui a accouché et élevé son enfant. Avec amour, nous sommes élevés. Cette chanson écrite par Kusbini contient un message que nous sommes tous dévoués à notre mère. Nous respectons et aimons nos parents, en particulier les mères qui ont accouché. Afin que nous soyons présents dans ce monde. Et cette chanson nous rappelle également de ne pas blesser nos cœurs et de désobéir à nos mères. Mon cher auditeur, voici la chanson keroncong Air Mata Ibu chantée par Subarja HS. Bonne écoute.
Ibu dan Bapak. Voice of Indonesia.
Bon, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Au revoir.